Le commandant-chef du corps des gardiens de la révolution islamique a affirmé que le peuple iranien est déterminé à surmonter les sanctions et répondre à ses besoins. Des militaires syriens et russes ont été pris pour cible par les roquettes des terroristes à Idlib. Un conseiller militaire russe et 7 militaires syriens ont été tués et plusieurs autres blessés. Et au Soudan, le premier ministre annonce la décision de dissoudre le gouvernement. C'était le titre. En voici le journal. Le commandant-chef du corps des gardiens de la révolution islamique a affirmé que le peuple iranien est déterminé à surmonter les sanctions et répondre à ses besoins. Le général de division Hossein Salami, commandant-chef du CGRI, a déclaré dimanche matin au Festival virtuel des sciences et des technologies et l'exposition des réalisations scientifiques et technologiques du Basij Force Populaire. Malgré les besoins du pays pour progresser, il existe heureusement de bons potentiels dans le pays. Les ennemis tentent de bloquer toutes les voies du progrès à notre nation. Pourtant, avec les efforts d'une jeunesse intelligente et travailleuse qui mène des efforts scientifiques et technologiques, nous voyons aujourd'hui que bon nombre de produits que nous devrions importer auparavant et qui nous rendaient dépendants d'autres pays sont produits par nos jeunes scientifiques. Notre nation s'oriente vers le progrès et nous essayons de nous épargner de toute dépendance, malgré avoir causé certains problèmes et pressions à un moment donné. Les sanctions sont devenues aujourd'hui l'une des opportunités historiques pour la nation iranienne, a souligné le commandant-chef du CGRI. Le général Salami a également souligné. Aujourd'hui, les sanctions ont créé une opportunité de stimuler les motivations, les croyances et les convictions du peuple. Et dans le vrai sens du terme, cette situation a conduit la société à faire un effort pour répondre à ses besoins. Il a également ajouté, « Nous ne pouvons pas rester dépendants d'autres pays. Notre situation est différente car nous sommes soumis à des sanctions mondiales et aucune partie n'est en mesure d'aider notre pays à devenir autonome. » Nous ne pouvons pas attendre l'aide des autres. Notre peuple et nos jeunes ont appris à se fier à leur propre esprit et à se tenir debout pour enterrer les souhaits des ennemis. Plus tôt le 19 janvier, le général de division Hossein Salami avait déclaré que l'Iran ne voyait plus la nécessité du plan global d'action conjoint ou accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Dans une autre partie de son discours, évoquant les sanctions globales contre l'Iran, le général Salami a déclaré l'ennemi a lancé une guerre économique et une pression maximale contre notre pays et n'a épargné aucun effort dans ce sens. Mais notre nation a pu créer un pouvoir qui a marginalisé les efforts de l'ennemi. La pression maximale n'était pas un slogan, mais une stratégie. La nation iranienne a réduit l'impact des sanctions et sait que l'ennemi ne lèvera jamais les sanctions à moins que notre nation n'en réduise les impacts. L'assistant principal du ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques spéciales, El Yasrar Khaji, et l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Martin Griffiths, se sont entretenus dimanche 7 février à Téhéran. La capitale iranienne a rapporté l'agence de presse officielle IRNA. Lors de la réunion, ils ont discuté de la crise au Yémen. M. Khaji a évoqué la situation difficile causée dans ce pays par la guerre et la pression économique imposée et a appelé l'ONU ainsi que la communauté internationale à inviter pour arrêter la guerre et éliminer la pression sur le peuple yéménite, tout en soulignant la volonté de l'Iran de fournir des aides humanitaires et médicales au Yémen pour sa lutte contre le nouveau coronavirus. Il a également appelé au règlement de la situation au Yémen par des moyens politiques à la tenue de pourparlers entre les Yéménites et à la formation d'un gouvernement inclusif avec l'aide de tous les partis politiques. Le responsable onusien a pour sa part remercié le rôle de l'Iran pour aider à établir la paix dans la région, à supprimer la pression économique et à la reprise des pourparlers politiques. Pendant son séjour en Iran, le responsable des Nations Unies participera à des discussions et échangera des idées avec des responsables iraniens sur les moyens de mettre fin à la crise. Des militaires syriens et russes ont été pris pour cible dimanche 7 février par les roquettes des terroristes à Idlib. Le groupe terroriste Ansar al-Tawhid, affilié à Al-Qaïda, a affirmé dimanche que des militaires syriens et russes avaient été tués lors d'une frappe de ses forces contre la ville de Kafr Anbel dans la campagne du sud d'Idlib. La frappe aurait visé un quartier général conjoint de l'armée syrienne et des forces russes. Selon les informations du groupe terroriste, un conseiller militaire russe a été trouvé la mort et deux autres militaires russes ont été blessés. L'attaque a également coûté la vie à 7 soldats syriens de la 5e corps et 3 de la 25e division. 12 autres soldats ont été blessés, selon la même source. Ansar al-Tawhid est un proche allié de Hayat Tahrir al-Sham, HTS, lié à Al-Qaïda. Le dirigeant de facto du Grand Idlib est le chef de la salle d'opération d'Al-Fatah al-Mubin. De même, les médias ont fait part du crash le 7 février d'un drone russe Orlandis alors qu'il était en mission au-dessus de la région nord-ouest du Grand Idlib. Le drone effectuait une sortie de reconnaissance au-dessus du mont Al-Zawiya dans la campagne du sud d'Idlib lorsqu'il a été pris pour cible par des terroristes Al-Fatah al-Mubin. Une photo du drone abattu a été partagée par ces derniers. Il s'agissait du 2e drone russe abattu au-dessus de la Syrie au cours des dernières 24 heures. Un jour plus tôt, un drone du même type avait été abattu par les forces kurdes au-dessus du nord de Raqqa. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a annoncé dimanche la décision de dissoudre le gouvernement, a déclaré le Conseil des ministres dans un communiqué. Conformément aux dispositions du document constitutionnel pour la période de transition, le Premier ministre a publié dimanche une décision visant à relever les ministres et ministres d'État du gouvernement de la période de transition de leurs fonctions et à mettre fin à l'affectation des ministres par intérim, a indiqué le communiqué. Selon la décision, les ministres congédiés assureront l'intérim jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Plus tôt dimanche, le Conseil des partenaires de la période de transition au Soudan a accepté d'annoncer le nouveau gouvernement lundi. L'accord de paix signé par le gouvernement soudanais et les groupes armés à Djouba au Soudan du Sud le 3 octobre 2020 stipulait l'implication des groupes signataires dans les mécanismes de décision de la période de transition, y compris le Conseil souverain, le cabinet et le Conseil législatif. Et en Somalie, l'opposition juge illégitime le président en fin de mandat. L'Alliance des candidats de l'opposition appelle à la formation d'un Conseil national de transition pour conduire le pays aux prochaines élections. Le président Farmajo est jugé illégitime par l'opposition après la fin officielle de son mandat dimanche sans que ce pays d'Afrique de l'Est soit parvenu à organiser des élections. À partir du 8 février, le Conseil des candidats de l'opposition ne reconnaît plus Farmajo comme président légitime et n'acceptera aucune forme d'extension de son mandat sous la pression annoncée dimanche soir. Dans un communiqué, une alliance regroupant plusieurs dirigeants ayant des ambitions présidentielles. De quoi déstabiliser un peu plus ce pays dont le fragile gouvernement fédéral aux prises avec les radicaux Shebab ne contrôle qu'une partie de son territoire, malgré le soutien de la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM. Le 17 septembre, le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, surnommé Farmajo, avait trouvé un accord avec 5 leaders régionaux et le maire de Mogadiscio pour tenir des élections avant la fin de son mandat le 8 février. Ce pacte abandonnait la promesse du « un homme, une voix », un objectif ambitieux que la Somalie s'était initialement fixé pour tenir ses premières élections entièrement démocratiques depuis 1969, mais qui a achoppé sur de multiples désaccords politiques et surtout pour des raisons sécuritaires. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Fin de guerre proposée par les États-Unis, Ansar pose ses propres conditions. Peu importe que Biden soit sérieux ou non pour mettre fin à la guerre contre le Yémen, l'accueil réservé par les Saoudiens à une solution politique de la crise et à la reconnaissance d'Ansar en tant que partie de négociation est un véritable aveu d'échec de Riyad. Le dossier yéménite compte parmi les premiers dossiers à être étudiés par le nouveau président américain Joe Biden après son entrée à la Maison-Blanche. Le département d'État a parlé plus d'une fois ces dernières semaines d'une suspension de la vente d'armement à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis et d'une révision des transactions d'armement avec ces pays. et cela en plus de l'annonce, un peu plus tôt, de l'annulation éventuelle de l'inscription du mouvement Ansarallah du Yémen sur la liste noire des organisations terroristes des États-Unis. Et pourtant, le président américain a annoncé jeudi dernier qu'il continuerait de soutenir l'Arabie saoudite dans sa défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays face à ce qu'il a qualifié des menaces proférées par les forces soutenues par l'Iran. Déclarations qui ont été chaleureusement accueillies par Riyad et qui prouvent de la meilleure manière que l'administration Biden n'entendait absolument pas stopper la vente d'armes à l'Arabie ou aux Émirats, mais changer tout simplement la raison de cette transaction ô combien juteuse. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce geste humanitaire de Biden alors qu'on sait d'ailleurs qu'il ne se soucie guère de la vie des civils yéménites sans défense? Les analystes en la matière estiment que Biden cherche deux objectifs à la fois. D'une part, il veut poursuivre la vente d'armes à l'Arabie et encaisser les pétrodollars saoudiens, et de l'autre, priver Trump et les compagnies d'armement qui lui sont proches des intérêts de ses contrats d'armement, empêchant ainsi toute prise de pouvoir de Trump et son mouvement trumpisme aux futures présidentielles américaines. Il est vrai que la guerre contre le Yémen a été lancée avec le feu vert du démocrate Barack Obama. Pour quelles raisons convaincantes, alors Biden, l'adjoint de ce même Obama, devrait-il décider de la fin de la guerre aujourd'hui? À cela s'ajoutent de nouvelles bases militaires américaines qui ont été mises sur pied en Arabie saoudite. Est-ce pour des fins humanitaires que les Américains renforcent leur présence militaire sur ce territoire? L'analyste yéménite Ali Al-Matouri est convaincu que par cette nouvelle rhétorique, Biden ne cherche absolument pas une fin de guerre au Yémen. Le président nouvellement élu veut en fait remplir sa promesse électorale tenue sous pression de l'opinion publique américaine et internationale. Quoi qu'il en soit, les Saoudiens, enlisés qui sont dans le bourbier yéménite, se sont vus obligés de se mettre à la table des négociations avec Ansarallah, et cela dans les circonstances où les yéménites sont dans une position de force. Mohamed Ali Al-Houssi, du Conseil politique suprême yéménite, est aussi sérieux que précis. Ce que dit Biden ne sont que des paroles. Nous attendons la fin du blocus et de la guerre. Nous ne négocierons que dans le cadre des intérêts du Yémen et nous n'acceptons aucune humiliation. Nous exigeons des indemnités de la part des pays agresseurs, tout comme les indemnités qu'a donné l'Irak au Koweït. Le peuple yéménite se réserve le droit à l'autodéfense. Nous fabriquons des missiles et des drones et nous sommes des plus expérimentés dans le domaine de combat.